Bonjour et bienvenue dans Sans Sucre, le podcast participatif qui met sur la table les questions que l'on se pose à l'adolescence lors d'une pause café.
Nous sommes Vanny et Shannon et nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour notre première conversation de café en compagnie de Léna Vanyouagneus.
Avec Léna, nous avons souhaité dresser un état des lieux de notre génération.
Nous avons parlé des attentats, de la Coupe du Monde de football en 2018, de Netflix ou encore de Tinder.
Ce qui lie ces sujets entre eux, chacun a impacté les adolescents de 2021 que nous sommes.
Des jeunes à qui les confidences autour d'un café manquent beaucoup, qui se réunissent par le biais de facteurs culturels communs et qui sont nombreux à créer des initiatives solidaires.
Mais aussi des jeunes qui ont peut-être perdu leur insouciance trop tôt et qui ont fondamentalement besoin de l'autre pour se construire.
Bref, tout ça, c'est ce qui façonne notre génération engagée.
Et un café et un thé pour mesdames, ça sera avec ou sans sucre ?
Sans sucre !
Salut Léna, comment tu vas ?
Salut Shannon, salut Vanny, ça va très bien et vous ?
Bah écoute, ça va.
Ça va.
Ça va super. Bah, je vois que t'as apporté ton petit café comme nous. C'est cool. Et c'est quand même plus sympa de pouvoir prendre un petit café, un petit thé. Parce que moi, je ne bois pas de café pour le fun fact. Malgré le distanciel. Et du coup, toi qui bois un café, tu bois avec ou sans sucre?
Toujours sans sucre.
C'est cool.
On est hyper contente d'être avec toi pour ce premier épisode de Sans Sucre. Donc déjà, merci beaucoup pour ta participation et ta venue. Et aujourd'hui, on a envie de faire un petit état des lieux de notre jeunesse. Et ce que nous, on considère comme les adolescents aujourd'hui, c'est tous ceux qui sont un peu beaucoup perdus, tous ceux qui savent vraiment où ils vont, mais ils ont tous un point commun, c'est qu'ils se posent des tonnes de questions. Et finalement, pour nous, les adolescents, c'est ceux qui ont déjà passé la phase de l'adolescence, mais ceux qui se considèrent pas non plus vraiment comme des adultes. Bon, au final, moi, par exemple, je me considère comme une adolescente. Je pense savoir à peu près où je vais, mais ça veut pas pour autant dire que je me pose pas 10 000 questions par jour. Et toi, Shannon ?
Dans mon cas, je me considère aussi complètement comme une adolescente. Et moi, je suis plutôt de la team beaucoup, beaucoup, beaucoup perdue à me poser tout le temps 10 000 questions sur ce que je veux pour mon avenir. Donc ouais, je m'y retrouve aussi vachement bien.
et toi, Léna, on voulait te demander, est-ce que déjà tu te reconnais dans cette définition de l'adolescence ? Et si oui, quel type d'adolescente es-tu ?
Alors ouais, je me définis totalement comme adolescente. C'est vraiment un entre-deux, puisque je me définis plus comme adolescente aujourd'hui, mais j'ai encore du mal à me définir, à m'assumer comme une adulte. Je vis encore chez mes parents, je suis encore en plein milieu de mes études. Et surtout, je suis en pleine période d'hésitation, de doute, et ça a été encore renforcé par la crise Covid. Je sais absolument pas ce que je ferai en septembre, je sais pas dans quelle ville je serai, dans quelle ville j'étudierai, dans quelle école je serai. Donc je me retrouve totalement dans le terme d'adolescence, et je suis plutôt dans une période de doute où je sais pas trop où je vais, ce que je vais faire.
Ok, donc toi t'étudies les sciences politiques, c'est ça ?
C'est ça, je suis étudiante en sciences politiques à Lille, j'ai 21 ans. À côté de ça, je suis la présidente du média Passe Politique et je suis la co-auteure avec Grégoire Cascara de Génération Engagée, à paraître chez VA Édition.
Aujourd'hui, nous, on souhaite surtout discuter de ton livre, Génération Engagée, que tu as co-écrit avec Grégoire. Et donc, pour faire cet état des lieux des jeunes, on aimerait connaître ta vision de la jeunesse. Et alors, est-ce que tu pourrais nous résumer en quelques mots ton essai ?
Alors, avec Grégoire, on s'est lancé dans ce projet parce qu'on a voulu montrer une autre image de la génération Z, qui a été considérée comme égoïste, individuelle, accro aux écrans, beaucoup trop longtemps. Nous, on a voulu la présenter sous son axe de l'engagement, comme une génération solidaire, audacieuse, entreprenante et courageuse. Notre livre, il est structuré en deux parties. Une première partie, on dresse le portrait de notre génération à travers les grands événements qui l'ont fédérée et les tendances majeures qui la traversent. Les attentats terroristes, l'incendie de Notre-Dame de Paris, les nouvelles formes d'engagement sur les réseaux sociaux. Et la seconde partie, elle est un peu plus programmatique. On formule des propositions concrètes pour inventer une nouvelle société de l'engagement.
Mais c'est vraiment hyper intéressant. Et nous, d'ailleurs, quand on a vu le titre, donc Génération Engagée, ça nous a tout de suite fait penser à France Télé, en fait, qui a réalisé un documentaire en 2016, donc le documentaire Génération What, et en fait, qui en a découlé un questionnaire pour faire l'état des lieux des jeunes, à ce moment donné, en fait, qui était la période de 2016. Et à la fin de cette enquête, la plateforme a proposé aux jeunes de choisir un nouveau nom, parce que c'est ceux qu'on appelle Génération Z, Génération Y, mais ça veut vraiment un peu trop rien dire. Et en fait, ce sont les terminologies sacrifiées, perdues, internet, désenchantées, désabusées, ou encore connectées du changement et de transition qui étaient en tête. Et c'est assez marrant parce que c'est des termes qu'on retrouve beaucoup pendant cette période Covid. Et toi, avec ton essai que tu as coécrit avec Grégoire, vous avez décidé de parler de génération engagée. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce choix?
C'est exactement ça. En fait, avec Grégoire, en discutant, on s'est rendu compte, on a fait le constat que quand on parlait de notre génération, c'était tout de suite une génération qui ne fait rien, qui ne se mobilise pas, qui n'agit pas, qui reste toute la journée devant ses écrans. Et finalement, quand on prenait le terme d'engagé, c'était pour signifier un manque et une absence. Et nous, on a vraiment voulu contrecarrer ça et montrer une autre image, parce qu'avec Grégoire, on s'est rendu compte que notre génération, elle était fondamentalement engagée. Simplement, on s'engage différemment, on délaisse les structures traditionnelles, on va peut-être se tourner un peu plus vers les réseaux sociaux, on va participer à des marches de protestation. Là encore, pendant la crise, il y a énormément de jeunes qui ont organisé des maraudes pour les sans-abri, par exemple. Donc nous, on était vraiment contre cette idée d'une jeunesse désengagée, une jeunesse individuelle, une jeunesse isolée. Encore plus contre une jeunesse fracassée, abattue, comme on l'a si souvent entendu pendant la crise. On a voulu montrer une autre image un peu plus positive de notre génération, une génération qui a confiance en elle et en les autres.
Ça tombe vachement bien parce que du coup, on a décidé de sonder un peu notre communauté sur Instagram, justement sur ces terminologies. Et en fait, on s'est rendu compte qu'ils étaient 40% à préférer emprunter le terme de génération engagée, contre 26% qui préféraient le terme de génération digitale et 20% qui se reconnaissaient plus dans le terme génération perdue. Donc ça confirme bien, je pense, le fait que vous vous êtes pas trop trompé sur la terminologie à emprunter et qu'il y a quand même une tendance globale à se considérer comme une génération qui s'engage.
Ouais, non, je suis d'accord avec toi, c'est plutôt les autres qui nous imposent cette étiquette de génération sacrifiée, génération abattue. Mais quand je parle avec des jeunes sur les réseaux sociaux ou même dans la rue, on rejette cette étiquette de génération sacrifiée et non, on est plutôt une génération engagée, une génération qui croit en l'avenir et une génération surtout qui n'abandonne pas. Donc je pense qu'on refuse cette étiquette et qu'on va aller chercher autre chose.
Mais écoute, c'est hyper inspirant tout ce que tu nous dis là et moi j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le terme génération à proprement parler. Donc comme le disait Shannon, on parle souvent de génération Y, Z, les millennials, bref, personnellement moi je suis un peu perdue avec toutes ces terminologies là. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de débat académique en rapport avec cette notion de génération, parce que on considère que c'est une forme d'analogie finalement de parler de génération pour une jeunesse de façon globale. Moi, je pense qu'il est important de rappeler que on peut pas, quand on va parler des tendances que tu as abordées dans ton livre, on peut peut-être pas forcément dire qu'on a voulu représenter toutes les classes sociales, toutes les origines, tous les genres. Il y a peut-être des personnes qui vont pas se reconnaître dans ces tendances-là, et c'est OK. Mais ici, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de parler d'éléments culturels qui nous sont communs et comment ils nous ont impactés. Et donc, voilà, moi, je voulais savoir aussi quelles étaient les variables que toi et Grégoire, vous aviez utilisées pour votre essai. Finalement, c'est qui cette génération engagée ?
Je suis d'accord avec toi sur le problème du terme génération. En soi, ça veut vraiment tout et rien dire. Avec Grégoire, après la sortie du roman, on a pu parler à des gens qui avaient 45 ans et qui se retrouvaient totalement dans ce qu'on avait écrit. Et pareil, des gens de 18-25 ans qui se retrouvaient mais absolument pas dans ce qu'on avait écrit. Donc le terme génération, ça veut pas forcément dire les 17-24 ans, la génération Z. C'est plutôt un état d'esprit, le fait d'avoir accès par exemple à nos téléphones, à tous ces changements que ça a entraîné, le numérique, etc. Mais il n'y a pas vraiment de barrière fixe. On peut dire, tu appartiens à cette génération ou tu n'appartiens pas. Je pense que c'est plutôt un état d'esprit. On associe aussi le terme de génération Covid-19, génération confinement. Ça aussi, ça veut vraiment tout et rien dire. On a tous été impactés par le Covid, tous été impactés par le confinement, certains plus que d'autres. Mais vraiment, ça veut tout et rien dire. Donc avec Grégoire, on a utilisé ce terme plutôt pour parler d'un état d'esprit. Le fait d'être soumis à tous les changements qu'on peut subir nous-mêmes, en étant adolescent par exemple, le numérique, la culture, etc.
Et d'ailleurs, il y a un truc un peu qui nous a marqué en fait quand on a commencé à lire votre essai, c'est que vous dressez donc le portrait de cette nouvelle génération à travers, comme tu l'as dit, les grands événements qui la fédèrent et toutes les tendances majeures qui la traversent. Et vous commencez en parlant de génération du vide. Et ça nous a vachement marqué parce que c'est une expression forte qui n'est vraiment pas dénuée de sens. Alors pourquoi génération du vide ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Et quelles sont les idées préconçues un peu qui martèlent cette génération ?
Alors notre génération, c'est vraiment celle qui est soumise à toutes les idées préconçues. Mais vraiment, c'est juste affolant. Quand on parle à quelqu'un, il y a énormément de préjugés sur notre génération. Individuelle, égoïste, paresseuse, centrée sur elle-même, brisée ou fracassée pendant la crise. Mais pas du tout. Pendant la crise, les initiatives se sont démultipliées. Je vais en citer deux, les collectes et les distributions alimentaires, par les jeunes et pour les jeunes qui se sont organisées dans toute la France. Ou encore Élèves solidaires, qui a été créé par Jules, où les lycéens et les étudiants peuvent s'entraider contre le décrochage scolaire et étudiant. Et finalement, c'est deux projets qui émanent de la nouvelle génération, mais qui démontrent tout son engagement. Donc oui, génération du vide, c'est surtout génération soumise à tous ces préjugés, à toutes ces idées reçues. Et on a voulu aller contre ça et nous faire porte-parole d'une jeunesse qui en a marre de ces idées préconçues et qui veut faire entendre sa voix. Qui mieux que la jeunesse pour parler de la jeunesse ?
Mais je pense qu'on est complètement en phase avec ça dans Sans Sucre. C'est l'une des raisons pour lesquelles on a voulu créer ce podcast, comme tu le sais. Donc c'est vraiment chouette qu'on soit d'accord là-dessus. Tout à l'heure, je parlais d'éléments culturels. Justement, c'est au travers de plusieurs événements que vous avez voulu qualifier notre génération, ce que je trouve d'ailleurs super dans votre essai. On a trouvé très intéressant que, d'une part, vous passiez des événements très tragiques, très marquants, comme les attentats du Bataclan en 2015, et de l'autre, des événements très festifs, très joyeux, comme la Coupe du Monde de foot en 2018. Et au final, on s'est demandé pourquoi avoir choisi de dresser ce portrait à travers ces événements en particulier et pas d'autres. Et on s'est dit qu'il était intéressant de sonder également notre communauté afin de savoir si eux aussi se sentaient impactés par ces deux événements en particulier. Et au final, sur 180 répondants, on a une majorité qui s'est sentie relativement impactée par la Coupe du Monde de football. Et à côté, on a quasi une unanimité qui s'est sentie beaucoup impactée par les attentats du Bataclan. Donc au final, on se demande ce que les attentats, ils ont ancré dans notre génération et au contraire, qu'est-ce que les moments de communion et de festivité, ils nous ont révélés.
Comme tu l'as dit, avec Grégoire, on a vraiment voulu prendre les moments forts qui ont impacté notre jeunesse et finalement notre adolescence et qui nous ont construits pour un peu évoquer la situation de notre génération. Donc comme tu l'as dit, génération Bataclan, ça fait directement écho aux attentats. Les premiers et ceux qui particulièrement m'ont le plus marqué, ça a été Charlie Hebdo en janvier 2015. Et on a aussi eu novembre 2015 avec les attaques au Stade de France. Et pour moi, ça a été un vrai basculement. J'avais 14 ans à l'époque et je me souviens encore parfaitement de quand j'ai appris ça. J'étais sur Facebook et ça a été terrible. Et je pense que ça a été un réel basculement pour notre génération. La France, le monde entier et surtout notre génération s'est mobilisée. Je me souviens du hashtag « Je suis Charlie » qui était sur tous les réseaux sociaux. Et finalement, la jeunesse qui avait 14, 15, 16 ans a pris conscience de cet enjeu et du fait qu'il y avait eu un réel basculement. C'était ni les premiers attentats et ce sera malheureusement pas les derniers. On a été génération Charlie, on a été génération Bataclan, on a été génération Nice. Et je me souviens particulièrement d'une phrase de François Hollande qu'il a dit après les attentats. Destiné à la jeunesse, il a dit « Malgré les larmes, cette génération est aujourd'hui devenue le visage de la France. » Et je trouvais que c'était vraiment une citation pleine de sens, pleine de courage, pleine d'espoir. Je pense que notre génération, à ce moment-là, ça a été un réel tournant, un tournant négatif, comme tu l'as dit, ça a été l'horreur, l'effroi. Mais on s'est mobilisé, on a répondu présent, et surtout on a été solidaires. Et sur un côté un peu plus joyeux, on a Génération 2 étoiles, juste après, qui fait directement référence à la victoire de la France à la Coupe du Monde de 2018, 4-2 contre la Croatie. Ça aussi, ça a été un moment époustouflant. Je me souviens encore des gens dans les rues qui criaient, qui étaient joyeux, qui se prenaient dans les bras. Il y avait toutes les générations. Ouais. On avait les drapeaux français sur les épaules, on chantait la Marseillaise. Et je pense que ça a également été un moment fort parce que on n'avait pas connu la victoire de 98. On l'avait seulement vécu à travers nos parents qui nous racontaient des petites anecdotes. Et là, pour le coup, c'était un événement heureux et léger qui nous a tous réunis dans la rue. Et ça a été un réel moment de complicité. Je me souviens, tout le monde se prenait dans les bras, on chantait, on se connaissait pas, mais pourtant, on était proches.
Je trouve ça génial que tu parles de ça dans ton essai, parce que rien que le fait que là tu en parles, tu vois, bah moi perso ça m'a mis des frissons des deux côtés. Je me suis rappelée parfaitement de où j'étais quand on a appris les attentats du Bataclan. Je venais d'acheter un pull où il y avait marqué « Today is a good day ». Je me suis sentie un petit peu mal d'acheter ce pull ce jour-là, c'est vraiment mal tombé. Moi perso ça m'a vraiment trop marqué. Et à l'inverse, la Coupe du Monde, c'était vraiment tellement joyeux et c'était fou. Surtout les barrières entre les gens n'étaient pas du tout respectées à l'époque, évidemment, et ça nous manque un peu d'ailleurs. J'aimerais bien revenir à ce moment-là.
Ouais, et puis en plus, enfin, moi je trouve qu'il y a un truc important à dire, c'est que avec je parle des festivités plutôt, donc tout ce qui était plutôt joyeux, mais la Coupe du Monde, pour le coup, ça a touché tout le monde, même ceux qui n'aimaient pas le foot. Moi, personnellement, je suis pas du tout une grande fan de foot. Pourtant, j'ai suivi une bonne partie des matchs de la Coupe du Monde parce qu'en fait, ça a tellement fédéré les gens et il y avait tellement un espèce d'engouement derrière les Bleus. Enfin, pareil, moi, la finale, mais je m'en rappelle, mais j'en ai les larmes aux yeux parce que je trouve que c'est d'autant plus frustrant un peu de s'en rappeler maintenant, alors qu'aujourd'hui c'est quelque chose qu'on pourrait plus du tout faire, hein, de se prendre dans les bras comme ça avec autant de joie et de bonheur ressenti en nous. Et je trouve que ça montre vraiment aussi à quel point le sport et donc aussi tout ce qui est la culture qu'il y a vraiment une culture française et juste en fait on s'est sentis tous unis par notre nationalité et j'ai trouvé ça super fort parce qu'on avait un peu l'impression qu'en une journée, justement, tout le négatif n'existait plus, comme s'il y avait plus de guerre, il y avait plus d'attentats, comme s'il y avait plus de choses négatives autour de nous et qu'il y avait juste en fait le bonheur de faire partie de la même nation, d'avoir la même nationalité, juste d'être heureux d'être français ce jour-là. Et je trouve que même quand on n'aime pas le football, c'est vrai que c'est quand même un truc qui a marqué notre génération. On en parlera, je pense, dans des années encore. Et nous aussi, on racontera à nos enfants ce que c'était que la Coupe du Monde 2018, quoi.
Ouais, c'est exactement ça. Je pense que ça allait encore plus loin qu'une simple finale de Coupe du Monde. On avait un besoin de se réunir et de fêter ça tous ensemble. Et d'ailleurs, il y a peu de sports qui fédèrent autant que le football. Là, on a eu la Coupe Destination de rugby. On a quand même été en finale et on n'a pas retrouvé cette ambiance. Bon, après, c'était le Covid. Mais le football, c'était vraiment particulier. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Vanille, je me souviens, après les attentats, on avait cours le lendemain. Et j'étais en troisième à ce moment-là. Et on avait fait une grande discussion tous ensemble pendant plus de 2 heures pour un peu faire le point sur tout ce qui se passait. Enfin, pour nous, c'était très récent. On n'avait pas du tout connu la guerre. C'était très lointain, tout ça. Et il y avait un réel besoin de discuter tous ensemble de ça avec notre professeur, de faire un peu le point sur ce qui se passait, sur les enjeux qu'il y avait derrière. Et on avait vraiment besoin d'en parler. Et pour moi, ça a vraiment été le moment fort de ma jeunesse.
Non, je suis complètement... Ouais, je pense qu'on est... On est tous en phase pour dire que il y a eu ces marqueurs forts un peu dans notre jeunesse qui font que je pense que c'est surtout que ça nous a fait prendre conscience de certaines choses à un moment précis de notre vie. Et du coup dans cette lignée-là vous parlez aussi d'un autre événement donc la Notre-Dame de Paris qui a pris feu en 2019. Et tu places cet événement comme le point de départ pour étudier le rapport des jeunes à la culture. Nous, on a été un peu étonnés au début quand on a vu ça, parce qu'on n'avait pas l'impression forcément que Notre-Dame ait tellement impacté notre génération, surtout si on compare à la Coupe du Monde ou aux attentats. Et du coup, on a sondé pareil notre communauté là-dessus, et ça a un peu confirmé nos dires dans le sens où il y en a quand même peu qui se sont sentis vraiment beaucoup impactés. Du coup, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce point de départ en particulier et qu'est-ce que tu en tires dans ton approche de la culture des jeunes et dans le rapport qu'ils ont ?
Alors déjà, je suis d'accord avec le constat que vous avez fait. Ça n'a pas touché tous les jeunes. C'était surtout les Parisiens et les catholiques. Mais Notre-Dame, ça a quand même été un lieu où s'est jouée une grande partie de notre histoire. Il y a eu les funérailles de beaucoup de présidents. La Marseillaise a été jouée au grand orgue au lendemain de la capitulation allemande en 1945 et au lendemain des attentats de 2015. Mais ce qui m'a particulièrement marqué ce jour-là et ce qui nous a entraînés à mettre Génération Notre-Dame, ça a été Édouard Philippe, qui était alors Premier ministre, et qui a dit que Notre-Dame allait être le chantier de toute une génération, notre génération. Et finalement, on s'est questionné sur notre rapport au patrimoine et à la culture, qui est totalement différent des générations précédentes. Et on a voulu un peu dresser ce constat avec Grégoire, du nouveau rapport entre jeunesse et patrimoine culture. On aurait pu appeler ce chapitre « Génération Netflix »,« Génération Spotify », parce que notre génération a une approche totalement digitale à la culture. On peut accéder à n'importe quelle série, à n'importe quel film, à n'importe où et à n'importe quel moment. C'est pareil pour les livres avec les e-books ou la musique avec Spotify et Deezer. Pareil pour l'information avec le YouTube du Vaud Décrypte ou les live Twitch de Samuel Etienne. Je pense que l'arrivée de tout ça a un peu été similaire à l'arrivée d'Uber avec les taxis. ou l'arrivée d'Airbnb avec les hôtels. Et finalement, il a fallu une réelle adaptation pour la culture. Arte, par exemple, c'est vraiment beaucoup numérisé et ils ont fait un énorme pas en avant. Il y a beaucoup de musées qui proposent des services sur le téléphone. Et pareil, il y a vraiment eu un énorme bond en avant fait avec la culture et ça a changé toute notre approche à la culture.
Dans la première partie de ce livre, vous abordez le terme « génération Tinder ». Moi, je trouve que c'est un chapitre qui est très important pour nous. Il y a plein de gens qui, sous leurs airs de « oui, je veux pas m'engager, je préfère avoir un plan cul », alors, c'est vraiment OK que les gens pensent comme ça et c'est vraiment très cool qu'on ait une démocratisation aussi des relations plus libres où on n'a pas forcément besoin de donner d'étiquettes pour vivre quelque chose, tout simplement. Mais je pense que fondamentalement, notre rapport à l'engagement en tant que jeune nous travaille beaucoup, que ce soit avec nos amis ou dans les relations amoureuses, et que même si on se donne des airs de « on n'en a rien à faire », en réalité, même avec le Covid, on a quand même besoin, je pense, d'attachement, de rapport avec les autres, les jeunes. Et voilà, moi, je voulais savoir ce que t'en pensais, pourquoi le terme « génération Tinder » en particulier, qui fait référence à un site de rencontre, comment ça impacte notre génération et la définition qu'on peut donner de celle-ci.
Alors, le point de départ de ce roman, ça a été un café pris avec 4 amis à moi. On discutait des garçons, de où on en était. Et on en est venu à faire le constat que finalement être en couple, faire des enfants et que ça dure toute la vie, ça nous intéressait plus vraiment et c'était plus une fin en soi. Et suite à ça, je me suis dit que le numérique avait vraiment tout changé. Par les applications de rencontres, Tinder, Grindr, ou simplement en swipant à droite ou à gauche, on rencontre quelqu'un sans rien connaître de la personne à part une simple photo. Et ça, plus toute la pression mise par la famille. Alors vous, je sais pas si c'est comme ça, mais moi, à chaque Noël, j'ai le droit à « Alors les amours », qui me déstabilise, mais en tout point.
Évidemment.
Donc ça, plus ça, plus ça, ça fait que, comme tu as dit, notre génération, elle a un mot d'ordre, c'est ne pas se prendre la tête sur ces questions. On a totalement différencié les relations amoureuses et les relations sexuelles. C'est plus un tabou pour personne. Et ça, c'est un énorme pas en avant. Donc oui, le numérique a tout changé. Je pense que le fait d'avoir accès à Tinder, le fait de pouvoir mettre notre relation sur Instagram, de pouvoir exposer notre vie publique à tout le monde, il y a vraiment un énorme changement sur les relations amoureuses, mais également les relations amicales. Et que cette digitalisation, ça a tout bouleversé. Et malheureusement, il y a eu aussi de nouveaux comportements qui ont émergé, le ghosting, le zombying, et plus malheureusement, le revenge porn. Donc il y a son lot de positifs, mais également son lot de négatifs. Mais en tout cas, tout a été changé.
Est-ce que tu pourrais nous donner les définitions des termes que tu as employés, ghosting, revenge porn et zombieing, pour ceux qui connaîtraient peut-être pas?
Alors le ghosting, c'est quand on parle avec quelqu'un et que du jour au lendemain, on donne plus aucune nouvelle, on disparaît, sans prévenir, sans donner de raison, tout simplement on disparaît, on donne plus de nouvelles. Le zombieing, c'est le fait de revenir quelques mois plus tard comme si de rien n'était, salut, ça va. Et le revenge porn, c'est le fait de par exemple publier des nudes sur les réseaux avec une volonté de vengeance, donc, ce qui est puni par la loi, mais ce qui malheureusement est fait de plus en plus souvent. Et il y a encore énormément de termes. Le benching, c'est le fait d'avoir un banc des remplaçants avec plusieurs personnes sous coude au cas où. Quand j'ai écrit ce chapitre, je me suis renseignée sur tous ces nouveaux comportements et je me suis dit, il y en a quand même beaucoup.
Et d'ailleurs, je voulais rebondir sur ce que tu as dit. Tout est parti d'un café, donc c'est très drôle parce que finalement, on se retrouve vachement sur cette notion de café. Et nous, quand on a lancé le compte Instagram de Sans Sucre, on a commencé par un sondage et dans ces questions-là, on demandait aux gens quelles étaient les conversations qui leur manquaient le plus quand ils étaient au café avec leurs amis. Et ce qui est majoritairement ressorti, c'est les conversations de cœur. Donc, pour dire à quel point, je pense que ouais, les relations amoureuses et amicales, c'est un vrai sujet chez nous, les jeunes.
Mais je pense que ouais, notre génération, elle se définit vraiment par le rapport à l'autre, qu'il soit amoureux ou amical. Mais on a un réel besoin de discuter avec des amis. Et depuis le début de la crise, je prends mon exemple, mais je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde, mais c'est vraiment compliqué de plus voir mes amis autant qu'avant. J'avais l'habitude de les voir 3-4 fois par semaine, d'aller boire un verre de vin ou un café après les études. Et là, finalement, on se retrouve en apéro-visio, et c'est pas du tout pareil. Et j'ai tellement hâte de reprendre un café avec mes amis, finalement de débriefer sur tout ce qu'on a raté pendant cette période.
C'est clair, et je pense que c'est pour ça qu'il y en a certains qui se reconnaissent derrière le terme génération sacrifiée. Moi, je pense que c'est un peu que les gens qui définissent notre génération par ce terme, les gens, je veux dire, les adolescents, ceux de notre âge, qui se reconnaissent dans cette identification-là, je pense que ce sont vraiment ceux qui se sentent en fait profondément seuls avec à cause de la crise, en fait, qui se rendent compte que, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a besoin de se voir, et que c'est, on dit à 20 ans, tu vis les meilleures années de ta vie. Donc là, c'est vrai qu'on a un peu l'impression de nous enlever ces années où on est censé passer tout notre temps avec nos amis, avec la personne avec qui on partage une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale ou sexuelle. Et je pense que c'est pour ça que... Enfin, je pense que c'est fondamentalement vrai quand tu dis que notre génération elle se définit par son rapport à l'autre. Et je pense que c'est en ça qu'on se sent autant sacrifié. Y a tout l'aspect aussi scolaire, travail, etc. Mais je pense qu'il y a fondamentalement, surtout... un sacrifice fait en termes de relation avec l'autre.
Je suis d'accord avec ce que tu dis. Et justement, en soi, génération engagée, ça ne s'oppose pas de front avec la génération sacrifiée. Moi, je vous avoue, quand je suis 8 heures devant mon ordi par jour pour suivre mes cours, quand je vois juste mes amis à travers Zoom ou Teams, quand encore après, je suis sur Netflix encore une fois devant mon écran, quand je peux plus sortir, là, je comprends la génération sacrifiée, son terme et son utilisation. Et en soi, génération engagée, ça ne s'oppose pas. On ne dit pas non, on n'est pas du tout sacrifié. Au contraire, c'est dramatique. Enfin, je prends encore mon exemple, mais moi, j'ai 21 ans. J'ai fêté mes 20 ans et mes 21 ans en confinement. Et depuis que je suis toute petite, on m'a dit « Ah, mais tu verras les études supérieures, tu feras des soirées, tu voyageras, ce sera les meilleures années de ta vie. » Et finalement, aux meilleures années de ma vie, ça s'est substitué à être devant mon écran toute la journée, à suivre des cours... de 2 heures où je lâche au bout de 15 minutes parce que je suis incapable de suivre un cours en visio. Donc j'espère qu'on pourra retrouver nos plus belles années de notre vie assez rapidement et rattraper le temps perdu.
Je voulais rebondir aussi sur le fait que les sites de rencontres, donc comme on parlait tout à l'heure, comme voilà, il y en a plein, hein, Tinder, Bumble, Fruits, Grindr, bref, il y en a plein. Il y a eu une explosion de l'utilisation de ces sites de rencontres pendant les confinements, donc pendant toute la période Covid. Et vous, dans votre chapitre sur la génération Tinder, vous avez interviewé Fabienne Kremer. Donc elle est psychanalyste et auteure de Solo No Solo, Quel avenir pour l'amour. Et il y a une citation qui en ressort que j'ai trouvée super intéressante, où elle dit que ces sites de rencontres sont des accélérateurs de rencontres, mais aussi de ruptures. Et voilà, je voulais avoir ton avis sur cette citation que je trouve assez pertinente.
Ouais, alors déjà, ça a été top de pouvoir faire intervenir Fabienne dans ce chapitre, parce qu'elle est hyper intéressante et elle est vraiment c'est vraiment son domaine de travail. C'était super intéressant d'échanger avec elle autour de ça. Et ouais, également cette citation m'a vraiment sauté aux yeux. Et finalement, j'ai un peu testé le temps d'écrire le bouquin, ces applications, et je me suis dit mais comment est-ce qu'on peut rencontrer quelqu'un juste en swipant à droite à gauche Et en discutant avec elle, je me suis rendu compte que même si on est en couple, il y a toujours cette tentation de vouloir avoir mieux. Et surtout de savoir que c'est disponible juste à portée de main. On va sur une appli et on trouve quelqu'un qui est peut-être un peu plus beau, un peu plus sympa. Et je pense que toutes ces applications, Tinder, Bumble, Fruits, ça s'oppose à un engagement à long terme. Parce qu'il faut sauter le pas, il faut se dire, bon, on se met avec ce garçon ou cette fille et on va plus voir ailleurs. Sauf que quand on a cette application disponible sur son téléphone, c'est quand même plus compliqué. Donc ouais, comme Fabienne a dit, ça dénature vraiment tout. Et c'est un nouveau rapport totalement inédit.
Et finalement, tu vois, je trouve ça marrant parce que tu parles d'engagement et du fait que notre génération, elle a peut-être pas envie d'aller s'engager sur les relations amoureuses. Mais pourtant, on parle de génération engagée avec tous les autres sujets dont on a parlé avant.
J'avoue que la génération engagée, ça... C'est un peu un paradoxe sur ce chapitre. Ce serait plutôt génération qui a peur de s'engager sur ce chapitre.
Exactement, je suis bien d'accord.
On va finir avec la question de la fin, la question signature du podcast. Alors, Léna, quel est ton petit grain de sucre au quotidien? En fait, finalement, quelle est la chose qui fait la différence chez toi? Qu'est-ce qui fait que tu es heureuse, qui t'anime? Qu'est-ce qui fait que tu es qui tu es aujourd'hui? Ça peut être une façon de penser, un film, un livre, un événement marquant. Enfin bref, tout ce que tu veux.
Alors moi, mon petit grain de sucre au quotidien, c'est de prendre du temps pour moi, en dehors des études, du travail, des projets, mais surtout et surtout, loin de mon téléphone et de l'ordinateur, J'adore prendre un livre, prendre un café et me poser une heure ou deux et lire simplement. Après, j'ai la fâcheuse habitude d'acheter énormément de livres qui s'accumulent dans la bibliothèque et que j'ai pas forcément le temps de lire. Mais en ce moment, je suis sur Femme puissante de Léa Salamé, qui est une retranscription des entretiens qu'elle a menés avec des femmes au parcours mais juste incroyable. Il y a Carla Bruni, Christiane Taubira, Amélie Mauresmo, Béatrice Dalle. Et c'est tellement inspirant de lire ce livre.
Eh bien, c'est génial parce qu'il est en train de prendre la poussière depuis Noël sur ma bibliothèque. mais je compte le lire et je suis très heureuse de l'avoir en ma possession. Donc tu me donnes envie de le faire.
Ah, je te le recommande, mais à 100%.
Alors, enfin, si tu as un message à faire passer à tous les adolescents ou non qui nous écoutent, ben, c'est le moment, on te donne le micro.
Alors, j'aimerais bien vous lire... une partie du discours de Stockholm de Camus en 1957, qui est d'ailleurs l'épigraphe de Génération engagée, et avec Grégoire qui nous a accompagnés du premier mot écrit au dernier mot. Alors, c'est « Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas, mais sa tâche est plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. » Et je trouve que cette citation, elle résume parfaitement notre génération, notre action, nos croyances, tout ce qu'on a envie de mener. Donc, je dirais à chaque jeune surtout qui a envie de s'engager, que ce soit citoyennement, que ce soit humanitairement, dans une association, même politiquement, de sauter le pas, de pas se sentir illégitime parce qu'il est jeune, et juste de foncer et d'être audacieux.
Écoute, merci beaucoup. Je pense que même moi, ça me touche beaucoup, donc je pense que ça va parler à beaucoup.
Je pense qu'on est en phase avec Vanille avec ce message, puisque bah, nous on a sauté le pas en créant Sans Sucre. C'est aussi ça pour moi s'engager, c'est que j'ai l'impression qu'il y a aussi un peu un culte de il faut faire quelque chose de grand pour avoir l'impression de faire quelque chose, mais pas du tout en fait. Si pour toi t'engager c'est créer un blog, c'est créer ton compte Insta, c'est ça peut être n'importe quoi, et en fait je pense qu'il faut surtout décomplexer. Et se dire qu'en fait, si t'as envie de faire quelque chose, bah go, fais-le en fait, et tu verras, ça pourra que être bien. Et si tu te ramasses, bah c'est pas grave, tu te relèveras encore plus fort, encore plus grand. Et je pense que nous, j'avais vraiment la volonté de créer un podcast. Je l'ai pas fait pendant, je dirais bien, deux bonnes années, parce qu'il y avait toujours ce truc de pas te sentir légitime, je me suis souvent sentie trop jeune par rapport aux gens qui créent leur propre podcast. Et en fait, avec Vanille, on a trouvé la force à deux de se lancer, et le fait de s'encourager et de se motiver. Et aujourd'hui, je regrette pas. Je pense que c'est une des plus belles aventures de ma vie que je suis en train de vivre avec Sans Sucre, parce que je fais quelque chose qui a du sens pour moi. Et j'ai vraiment l'impression de m'engager à mon échelle, à mon niveau. Et je pense que c'est ça le plus important, en fait. Donc, merci pour ton message, parce que je pense qu'il est fondamental pour tous les gens qui nous écouteront.
Bah justement, avec Grégoire, c'est écrit à la fin de notre essai, mais on a l'habitude de dire qu'il y a autant de formes d'engagement qu'il n'y a d'engagés. Chaque aventure est unique, aventure entrepreneuriale, aventure humanitaire, aventure associative. Chacun est unique dans sa façon de s'engager, et le plus important, c'est juste de pas se mettre de barrière. On n'est jamais trop jeune, on n'est jamais pas assez expérimenté, il faut juste y aller et foncer et croire en soi.
Merci pour ce message de fin, et on voudrait du coup que tu te donnais l'opportunité de nous dire où retrouver ton livre, parce que je pense qu'après l'écoute de ce podcast, beaucoup auront envie de s'y plonger. Donc où est-ce qu'on peut le retrouver et à partir de quand?
Alors, si vous voulez en savoir un peu plus sur cette génération engagée, on se retrouve dès le 29 avril dans toutes les librairies et dès aujourd'hui en précommande sur Internet.
Bah, merci Léna. Cool. On mettra toutes ces informations en note du podcast. Et en tout cas, n'hésitez pas à aller soutenir Léna et Grégoire en achetant leur livre.
Merci encore Léna.
Merci à vous pour l'invitation.
On va pouvoir demander l'addition au serveur du coup.
Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à nous écrire un commentaire, à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos discussions à venir.
Vous pouvez également nous rejoindre sur Instagram, @sanssucrepodcast, pour participer à la construction des épisodes. Car, n'oubliez pas, sans vous, Sans Sucre ne peut pas exister.
Sans Sucre, le média fait par les jeunes et pour les jeunes, sans langue de bois.
Sans Sucre quoi ?